Alors nous sommes au cœur du centre d'art La Halle à Pont-en-Royans, en compagnie de Léa Abourdin. Bonjour Léa.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'exposition Les Persistantes, qui s'ouvre bien ce mois de mars 2023. À vos côtés, Julia, bien entendu, commissaire d'exposition du lieu d'art.
Bonjour tout le monde.
Et Jonathan Ferrara aussi, associé à cette activité de l'exposition qui va se dérouler pendant plusieurs mois. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Introduction de l'exposition avec Julia.
Léa Bourdin, donc, je connais depuis quelques années, a démarré la série Images Forêt à La Halle en 2020. Donc c'est quand même une série, des recherches qu'elle mène depuis plusieurs années. Et quand j'ai vu ce nouveau volet de travail, des recherches de Léa, je me suis dit, mais ce serait quand même très intéressant qu'elle puisse être à un moment à résidence chez nous, d'Alvercorps. Il y a cette notion effectivement de forêt naturelle, à caractère naturel et intouché, donc il y a de la matière sur place. Donc pourquoi pas lui proposer de passer à moins dans la région. C'était aussi l'occasion d'avoir pour la première fois un partenariat avec la Villa Glovette, qui est une nouvelle association installée sur les plateaux à Villars, au Glovette. Les auditeurs connaissent peut-être déjà ces types de projets, donc de résidence dans les lits froids des Glovettes. Des artistes sont invités hors saison à travailler plusieurs médiums, plusieurs techniques, vraiment dans ces cadres un peu coupés du monde, justement hors saison. Et c'était le cas de Léa. Donc en fait, c'était pour nous de lui proposer un terrain d'expérimentation, être très près des bois, être aussi en contact avec des gens qui connaissent bien le territoire, qui ont cette connaissance sensible aussi de la forêt, et donc vraiment lui donner l'opportunité de développer ses recherches qui existaient depuis un an et demi, deux ans quand elle était fin 2022 en résidence. Et donc tout ça a permis de construire ces nouveaux volets de la série Images Forêt, donc les persistantes.
Les persistantes, Léa Bourdin, qui donnent un écho à votre pratique et puis aussi votre vision de photographe. Peut-être même que d'autres disciplines ont précédé la photographie.
Oui, en fait, moi j'ai commencé ma formation d'artiste par la gravure et puis ensuite je l'ai continué par la photographie, mais je pense que ça m'a donné une façon de réfléchir à la façon d'imprimer plus qu'à la façon de tirer les images, en tout cas au multiple qui prend tout son sens dans cette exposition puisqu'il y a trois manières de montrer les images.
Alors quand on évoque la forêt, vous avez aussi votre axe bien déterminé d'aborder la forêt.
Quand j'ai commencé cette recherche, j'avais à cœur d'être assez intègre et précise dans ce que je faisais. Donc j'ai beaucoup lu et parlé avec des gens dont c'est le métier de conserver les forêts. Il se trouve qu'il y a ce type de forêt qui s'appelle les forêts à caractère naturel. Que j'appelle aussi les forêts intouchées, parce que je trouve qu'on comprend mieux, qui sont, on pourrait les appeler les petites filles des forêts primaires. Scientifiquement, dire forêt primaire, c'est un peu désuet, ça n'a pas vraiment lieu d'être, en tout cas en France hexagonale. Mais il reste ces lieux qui sont précieux et qu'il faut préserver. De là d'où je suis partie, c'est d'aller les documenter. J'ai commencé ce projet, faut s'en souvenir, en 2020, qui était l'année du Covid. Alors, moi, j'avais écrit tout le dossier pour une aide de la part du CNAP, donc le Centre National des Arts Plastiques, avant la fermeture au Covid. Mais il se trouve que tant mieux que ce soit en France, puisque du coup, j'ai pu faire le projet. Et je me suis confrontée à des demandes d'autorisation, des fois des demandes à la sous-préfecture. Qui sont pas faciles à avoir, et ce que je comprends totalement, on essaye qu'il y ait le moins possible de passage dans ces lieux. Ce qui fait que, pour l'instant, je me suis pas trop projetée sur d'autres pays, puisque je sais que du coup, il y a une barrière de la langue, ou bien même... Là, j'avais le soutien du CNAP, donc quand je me présente, on me prend un peu plus au sérieux. Si j'arrive au fond de l'Europe, c'est plus compliqué. Par contre, j'ai pris en photo une forêt qui a été ensuite classée au patrimoine de l'UNESCO, qui est dans les Vosges, et qui fait partie d'un axe qui va jusqu'aux Carpates. C'est une haie très ancienne. Et j'avais envie, en fait, ça m'a... Quand j'ai compris que... Enfin, c'est un peu idiot de le dire, mais je pense qu'on fait tous ce chemin à un moment donné. En fait, la forêt, elle ne s'arrête pas à la frontière, elle s'arrête au continent, enfin, elle a quelque chose de beaucoup plus ample. Et que, en tant qu'humaine, c'est difficile de l'appréhender. Il faut faire un effort de cartographie mentale pour comprendre que on n'est pas sur deux pays, on est sur tout le continent. Donc j'aimerais plus tard suivre cet arc. Pour l'instant, il traverse des zones en guerre, donc c'est pas possible.
Eh bien, nous allons revenir sur le Vercors avec ces différentes forêts qui ont été l'objet de toute votre attention, Léa, pour les environs de Villard-de-Lans, on peut dire ainsi, puisque Villard-Glouvette, c'est un peu le territoire des quatre montagnes. C'était votre terrain d'action ?
C'était la première fois que j'arrivais dans le Vercors. En me documentant en amont, j'ai vu que c'était la plus grande réserve naturelle de France hexagonale. Donc c'était obligé que j'y passe avec ce travail, j'étais assez contente. Et les Glouvettes, ça a cette particularité de quand on est dans un des appartements, on a vraiment l'impression d'être tout seul au cœur de ces lieux. Et ça m'a énormément plu, parce que c'était la première fois que je pouvais rester aussi longtemps aussi. Ensuite, j'ai commencé à essayer d'aller dans les forêts à caractère naturel ou intouchées qui étaient dans le Vercors. Mais pour celle-ci, ça a été impossible puisque ce sont des lieux trop protégés. Et donc, en demandant toutes les autorisations, je n'ai pas pu y aller. J'ai pu aller dans un endroit protégé du plateau de Chartreuse qu'on voit à la halle, dans la première salle. Pendant ces 3 semaines, je me suis posé la question, parce que c'est aussi assez spécial de se dire « je vais dans des endroits où personne ne peut aller ». Et qui suis-je pour me permettre d'y aller, moi ? Est-ce que moi aussi, je devrais me l'interdire ? Enfin, et je comprends totalement qu'on m'empêche d'y aller, puisque je serais une humaine de plus qui traverse le lieu. Et ça, j'essaye de le retranscrire avec les antotypes qui sont présentés dans la salle du milieu, dans des boîtes. Les antotypes, ça vient de Anthos, la fleur, et c'est un tirage fait avec de la chlorophylle. Donc j'utilise la chlorophylle comme produit photosensible, en fait, comme du cyanotype. Pour les gens qui en ont déjà fait, c'est exactement la même façon de faire, sauf que là, c'est du jus de plante. Sauf que les antotypes, ils ne se fixent pas. Donc j'aime bien dire que de la même manière que nous, on a un corps qui vieillit, les antotypes, ils ont une durée de vie limitée. Ils se fanent quand ils voient la lumière. Donc là, ils sont présentés dans des boîtes qui les protègent de la lumière. Et c'est au visiteur ou à la visiteuse de faire le choix, en fait, d'ouvrir ces boîtes et de regarder l'image, et donc de la tuer un petit peu. C'est un choix que je laisse, et je trouve ça très beau de voir le cas de conscience, en fait, qu'on a devant ces boîtes, et qui est exactement le même que j'ai eu lorsque on m'a dit, vous pouvez y aller, mais faites très attention, restez pas plusieurs jours. Et justement, là, dans le Vercors, je n'y suis pas allée.
Le visiteur se retrouve un peu acteur de sa posture face à l'environnement, et notamment tout ce qui est un plantage de fond, les interventions de l'homme sur la forêt.
Oui, et puis c'est vraiment une espèce de contrat avec soi-même, c'est-à-dire que chacun a sa façon de gérer. La première fois que j'ai présenté ces antotypes, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ce clic chez les gens, mais j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient moi, je ne l'ai pas vraiment ouvert, ou moi, de gens qui avaient besoin d'en parler, en fait. Et c'est exactement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire, je ne voulais pas donner une leçon, parce que je ne suis pas du tout assez intègre pour donner des leçons, mais je voulais qu'on en parle. Et à quel moment on se dit, non, moi, finalement, je ne vais pas regarder l'image, j'en ai pas besoin, ou allez, je me l'autorise, et tout est possible. Il y a même des gens qui laissent ouvert les portes, qui ne font pas attention, mais ça fait partie la complexité de l'humain. En fait, il y a vraiment une liste établie des forêts intouchées en France qui a été faite par les chercheurs et les conservateurs et conservatrices que j'ai rencontrés. Et cette liste est assez... c'est très scientifique. Il faut qu'il y ait au moins 30% de bois mort, il faut qu'il y ait une diversité, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait sur le long terme, c'est d'essayer d'aller voir toutes ces forêts en France pour en cataloguer la diversité et montrer qu'elles existent. Dès qu'on parle de forêt primaire, on pense à la forêt d'Amazonie, mais il y a des endroits très très précieux en France, hexagonales, sans faire de chauvinisme, mais c'est important de le savoir. Et donc, dans la première pièce de la halle, on peut voir une sélection d'images de ces lieux imprimées avec des pigments végétaux. Et donc là, elles sont persistantes, justement, elles résistent à la lumière. Sont des végétaux qui ont été prélevés dans un jardin d'un monsieur qui s'appelle Michel Garcia, qui est un pape de la teinture végétale et qui a un petit jardin de plantes qui font des couleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est c'est le végétal qui imprime sa propre image, qui imprime la forêt. Donc on va avoir de l'indigo du persicaire, qui est un très beau bleu, qui rappelle le bleu du jean, par exemple, de l'orange du coréopsis, qui est une petite fleur jaune avec un cœur rouge. Déjà, il y a cette poésie de renommer les plantes que j'aime beaucoup, de les inviter à l'exposition, en tout cas. Et le fait de faire la peinture qui va imprimer les photographies, c'est une technique... sont vraiment des gestes qu'on peut voir dans les films où les peintres, à l'ancienne, ils ont la molette, ils broient le pigment, qu'ils mélangent avec... du miel et de la gomme arabique pour faire l'aquarelle. C'est exactement la même recette et le même geste que je fais. Il y a un côté cuisiner son image que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on me le dit souvent, en fait, soit j'ai les mains... La dernière fois, on m'a dit, on dirait que tu viens de jardiner. Mmh. Et finalement, c'était un peu ça, puisque je venais de teindre une centaine de tissus avec des artichauts. Oui. Ou alors, je suis en train de broyer des pigments. Et en fait... ça fait depuis que je fais de la photo, j'ai besoin que la photo ait une matérialité et qu'elle arrête justement d'être intouchable. Parce que quand j'ai commencé la photographie, c'était en 2010. Si on se souvient du papier photo, bon, maintenant c'est très désuet, mais le papier photo glacé, on met une petite trace de doigt, on peut le mettre à la poubelle, c'est fini. Et j'avais besoin de retrouver, vu que j'ai eu cette formation de graveur avant, la gravure, on met à la main l'encre dans les creux, quitte à avoir les mains noires. Et bon, c'est personnel, mais je pense que ça donne une autre façon d'appréhender l'image pour le visiteur, la visiteuse. Et là, sont des images qui sont très pâles et qui permettent... parce que quand on parle de forêt primaire, on a une espèce d'image intérieure. On parle de forêt depuis qu'on est tout petit, finalement. Il y a la forêt avec le loup, il y a la forêt où se passent des choses, puis après... Il y a ces forêts à protéger, il y a la forêt amazonienne qui fait un peu rêver. Et donc de l'imprimer simplement en noir et blanc ou en couleur, je trouvais que ça venait trop écraser cette image qu'on avait intérieurement d'une forêt intouchée. Et donc là, avec ces encres un peu transparentes, je trouve qu'il y a une profondeur qui est possible et qui peut dialoguer avec nos forêts intérieures.
Il y a quelque chose d'évanescent dans ces photos. On a l'impression aussi que c'est furtif, éphémère, pourtant elles sont persistantes.
Et puis il y a une justesse, justement, il y a vraiment un cycle qui va à la fois de ben, « je m'intéresse à ces forêts-là pour un engagement personnel ». Les travaux photographiques de Léa est d'une manière globale lié aux résidus de vie sauvage dans nos vies aujourd'hui. Donc là, s'intéresser à ça, il y a forcément quelque chose de... Je ne sais pas si c'est du militantisme, mais en tout cas de vouloir aller là aujourd'hui dans les années 2020, mais de produire ces images avec la même terre, avec les mêmes pigments, les mêmes plantes. Il y a quelque chose comme ça de circulaire, de l'idée à la fabrication, à ce qu'on donne à voir et ce que le public projettera et puis répartira avec un souvenir. Donc il y a quelque chose de juste vraiment dans la démarche globale à 360, que je trouve vraiment à la fois touchant et important et persistant.
Il y a une pièce qui est la dernière de l'exposition qui présente un mur entier de tirages qui ont été faits exprès pour la halle et qui justement découle d'une réflexion que j'ai eue pendant la résidence. En fait, ça fait 3 ans, donc je parle de ces forêts et à plein de personnes différentes. Et presque à chaque fois, chacun me répond avec... un lieu qu'il ou elle a dans le cœur, entre guillemets, sans faire de mièvrerie, mais un lieu qu'il ou elle aime bien, ou dans lequel elle aime bien se balader, et qui est particulièrement sauvage pour cette personne. Ça peut être un arbre remarquable, ça peut même être un arbre remarquable dans un parc au milieu d'une ville, on m'a déjà parlé de ces lieux-là. Et là, j'étais dans le Vercors, les gens sont dans la forêt. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tant que citadine. Et on m'a beaucoup parlé de ces endroits, qui ne sont pas catalogués comme forêts primaires ou intouchées, mais qui ont quelque chose en plus, en tout cas pour les gens qui me l'ont conseillé. Et j'y suis allée à chaque fois, des fois accompagnée, des fois pas, parce qu'on m'avait montré, on m'avait fait une croix sur une carte. Et puis, ce que montre cette pièce, en fait, sont tous ces lieux qu'on m'a conseillés, donc qui sont les forêts des gens, j'aime bien dire ça comme ça. Elles ont une façon d'être montrées qui est spéciale. Elles sont teintes sur des tissus. La teinture, c'est toujours de la teinture végétale. Le végétal qui a été utilisé, pour la plupart, sont des restes de nourriture. Je trouvais ça intéressant de m'attarder sur l'idée du reste. Et surtout que... pendant la résidence, on est un peu en vase clos tout seul et du coup, je gardais ce que j'avais mangé, je gardais les peaux, les pelures, etc. C'était toujours dans ce circulaire dont tu parlais, Julia. Bon, il n'y a pas que des restes de nourriture, il y a aussi de la racine, des choses que j'ai collectées sur le bord de la route, pas loin des Glovettes. Ce ne sont pas un tirage photographique, c'est de la teinture végétale. J'ai fait une formation grâce à la résidence... avec Wall, qui est une entreprise parisienne qui a un jardin teintorial, et qui m'ont expliqué qu'en fait on pouvait préparer le tissu par différentes manières, et donc j'ai transposé ça à la photographie. Ça s'appelle la technique des Indiennes, à ce qui paraît. Et donc on a ce mur entier d'images de forêts des gens qui sont sur tissu, et donc une matérialité... je trouve plus domestique, enfin moins intouchable justement, qui marche bien avec le sujet, je trouve.
C'est vraiment l'idée d'avoir deux types d'images, la première salle très institutionnelle, des forêts, que ce soit un chartreuse d'un autre parc où elle a été accompagnée par des scientifiques, des chercheurs, des chercheuses, des conservatrices, des conservateurs, voilà, par des gens qui ont une autorité, en quelque sorte, dans la matière, qui transmettent un savoir, qui protègent, qui ont vraiment une mission très cadrée et très précise. Et puis, on passe petit à petit en salle où il y a les intotypes, donc déjà... on rentre dans quelque chose de l'ordre plus de sensible. Est-ce qu'on ouvre ? Est-ce qu'on n'ouvre pas ? Du personnel, donc face à un choix qui peut être un dilemme pour certains. Et puis on termine avec voilà, quelque chose qui est très dense. Un mur avec il y a plus de 100 images qui ont été tirées sur tissu. Donc c'est à la fois une multitude d'images. Enfin, on disait quand on réfléchissait à l'accrochage, c'est presque un flou de conscience en fait. On est dans quelque chose qui est tout sauf cadré, classé, scientifique. C'est vraiment quelque chose qui veut reprendre cette idée de sensible, de Léa, il faut absolument que tu vois ces bois qui est là, parce que vraiment, c'est trop beau et c'est sauvage, etc. Enfin, vraiment, cette idée-là que Léa essaye de reproduire. Et les choix du support et de la technique de teinture, elle est, encore une fois, pour moi, assez juste pour transmettre cette idée-là.
C'était l'idée aussi de terminer sur quelque chose d'assez joyeux, parce que je me suis dit, bon, je montre des forêts où personne ne peut aller. Et il y a cette question de est-ce qu'on ferme les lieux à l'humain, en fait Et donc, toujours avec ce dilemme de est-ce que je vais regarder l'entotype, c'était pour expliquer. Et donc, cette troisième salle, elle dit, mais en fait, il y en a des forêts qu'on peut apprécier sans avoir peur de les abîmer. Et j'aimais bien terminer sur ce regain de joie vers ça, enfin d'optimisme, et pas de se dire, voilà, on est tellement destructeur qu'il faut qu'on s'interdise tout.
Cette œuvre éphémère qui occupe la deuxième salle, l'entotype, et qui donne une certaine mesure du temps, un côté éphémère à adopter. Alors, comment l'avez-vous conçu pour cette exposition, Léa ?
De la même manière qu'on doit ramasser du bois pour faire un feu, moi j'aime bien penser à que je ramasse du végétal et des plantes pour faire mes images. Or, ça oblige à une certaine saisonnalité. Par exemple, pour les entotypes, pour pouvoir les faire, il faut beaucoup de chlorophylle. Et la chlorophylle, ben, on le sait, elle est surtout présente mi-printemps, été, mais en automne, il n'y a pas grand-chose qui va m'aider à faire une image. Et en hiver, c'est très compliqué. Et ça, c'est très intéressant parce que je ne m'y attendais pas en commençant ce travail. Mais ça m'oblige à prévoir et à m'adapter. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que je suis en dormance l'hiver, mais je peux moins faire d'images. Dans la deuxième salle, justement, il y a deux entotypes. Il y en a un qui est, sans trop le dévoiler, qui a des couleurs un petit peu beige, parce qu'il a beaucoup vu le soleil, il a été fait en été. Et donc, on perçoit bien l'image. Et l'autre qui est presque, bon, qui est très rose, et qui est très peu contrasté parce que c'est un entotype d'hiver. Et donc, il a, même s'il a vu le soleil, il n'a pas beaucoup vu d'UV.
Alors, imaginons un entotype qui a bien vécu. Que reste-t-il ?
Eh bien, il a fané, il est très pâle. Ouais. C'est-à-dire que la chlorophylle a perdu de sa... Alors, chlorophylle, on pense tout de suite au vert. Or, elles ne sont pas toutes vertes. Ouais, au fur et à mesure qu'elle prend le soleil, elle devient très pâle, voire jaune.
Le soleil efface littéralement l'image. Donc, on revient au choix du public.
Voilà, un choix draconien. Est-ce qu'on ouvre ou on n'ouvre pas ? Je ne sais pas si vous me précisiez tout à l'heure qu'il y a même des subterfuges. Certains se disent, oh, ben, on va se grouper pour optimiser disons, l'image. C'est un petit peu comme aller sur un lieu fragile, finalement. Des fois, on se dit, c'est peut-être mieux de l'avoir en photo, de se grouper pour éviter les individualités.
Oui, mais ça me fait penser, c'est exactement ce qui s'est passé pour une de mes visites dans une forêt intouchée. Le conservateur m'a dit, là, tu peux venir à cette date-là, parce qu'on part à quatre pour aller mesurer ce qu'ils appellent le degré de naturalité, donc s'assurer que la forêt, elle est encore assez intouchée pour être dans ce catalogue. Et donc, qu'on soit quatre ou cinq, finalement, c'est pas bien grave. Et donc, j'ai pu intégrer le groupe. Et finalement, ce que vous racontiez, il y a des gens, en effet, qui se sont mis à quatre, qui ont ouvert la boîte. Et donc, ça faisait quatre paires d'yeux au lieu d'une pour le même instant.
Merci beaucoup, Léa Bourdin, pour ce bel éclairage sur le lieu d'art et les trois salles qui sont destinées à l'exposition. Autour de l'exposition, il se passe des choses également. Jonathan ?
Et oui, tout à l'heure, on parlait de cuisine, donc on vous a concocté un peu des petites choses pour essayer d'approcher aussi l'exposition, mais plus par le faire. Tout d'abord, un stage de teinture végétale, justement, et de sérigraphie avec une artiste qui s'appelle Mathilde Gins, qui viendra donc à la halle le 13 mai pour une intervention sur la journée. Ensuite, on aura le 27 mai pour la fin de l'exposition aussi un atelier tout public autour de la technique, pareil, de la sérigraphie. Les deux sont à réserver par téléphone ou par mail. Je vous redonnerai les coordonnées à la fin. Pendant les vacances scolaires aussi d'avril, on met en place un petit kit and collect, comme on l'appelle, autour de la technique de l'entotype, donc qu'on a pas mal développé à l'instant, qui donc sera à la disponibilité du public dans nos salles. Et puis, pour les scolaires et les groupes, cette fois, on a deux choses. Donc, un atelier, pareillement autour de la technique de la sérigraphie pour les 3-18 ans, donc qui est combiné aussi à une visite de l'exposition, évidemment, et une visite comptée pour les 3-6 ans, autour voilà, d'une histoire sélectionnée qui introduira un petit peu à la visite de l'exposition. Et donc tout cela est aussi à réserver par mail et par téléphone, donc soit au 04 76 36 05 26, soit à l'adresse mail public au pluriel avec un S, @ tout collé, lahalle-pontorvoyant.org.
Merci beaucoup, Jonathan.
Et Léa reviendra aussi au printemps, une date qu'on est en train de valider, que vous pourrez retrouver sur notre site très, très, très bientôt, pour effectivement parler à la fois de son travail de photographe, mais aussi de son travail d'éditrice, quand même des thématiques qui font écho avec les lieux qu'est la Halle, avec sa double nature de centre d'art et médiathèque, de voir comment ces deux facettes de produire des livres d'artistes et produire des images en tant qu'artiste, comment elle concilie ces deux parties et ces deux activités.
Je considère mon travail d'éditrice comme un hobby, même si je le fais très sérieusement. On est en binôme avec Jessica Martinato à la tête des éditions Mille Cailloux. Mais on publie un livre d'artiste tous les deux ans. Donc c'est vraiment pour le plaisir. Il se trouve que ce sont des livres très spéciaux, qui sont très longs à faire et qui sont généralement très beaux, je trouve. Mmh. Voilà.
Un côté artisanal, manufacturé très, très fort, c'est vraiment pas du tout dans l'industrie du livre. Et à découvrir en tout cas, hein, parce qu'il y aura des exemplaires qui seront proposés.
Voilà, une belle exposition en tout cas qui résonne avec le printemps à découvrir assez largement, Julia, durant ces prochains mois.
Jusqu'au 27 mai.
Jonathan.
On peut peut-être donc aussi rajouter que toutes les infos de l'exposition ainsi que un peu la programmation des rendez-vous de l'expo sont à retrouver sur notre site web et aussi d'autres infos sur nos comptes Instagram et Facebook, @lahallecentredart.
Et l'entrée libre est gratuite, hein, on le précise toujours.
Les portes sont toujours ouvertes, ouais. Ah bah, pendant les horaires d'ouverture.
Merci beaucoup.